cette campagne. Bonjour, après le Tarn, nous sommes toujours en Occitanie, mais cette fois avec le département du Tarn-et-Garonne. Ce petit territoire, comparé à la superficie moyenne des départements de l'Hexagone, engrange de nouveaux habitants au fur et à mesure des années. Trois villes principales, Montauban, Castelsarrasin et Moissac, plutôt modestes en taille, au centre de ce bas-Quercy. Aujourd'hui, nous serons partagés encore entre le troisième volet du dossier « La révolution du partage » à lire dans la dernière édition du magazine La Vie, avec pour nouvel exemple les ateliers Humanicité à Lille présentés par notre confrère Laurent Gibowski. Puis tout d'abord une première incursion dans le Tarn-et-Garonne avec un des grands promoteurs de l'épuration écologique des eaux usées grâce aux filtres plantés de roseaux. Il s'appelle André Paulus et nous l'appelons tout de suite.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
André Paulus, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
André, ingénieur civil des constructions spécialisé dans les problématiques d'eau potable, d'assainissement, animateur d'un procédé maintenant répandu, filtre planté de roseaux pour le traitement des eaux usées, auteur de fiches de livres, le dernier, Histoire au pluriel, Histoire d'eau, le versant vert de l'eau française aux éditions Johannet. André, la phytoépuration, c'est vous alors?
Ce n'est pas cette prétention, parce que la phytoépuration est un vaste domaine dans lequel j'ai creusé un petit sillon. Dans la phytoépuration, il y a une technique qui s'appelle le filtre planté de roseaux. Et là, oui, effectivement, j'ai participé au développement et surtout à la diffusion de ce procédé dans les campagnes de France.
Vous avez testé le processus avant de le lancer ?
Ah oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas seul dans cette mission-là, puisque le procédé, qui est d'origine danoise, d'ailleurs, a été importé et surtout mis au point en France par un organisme du ministère de l'Agriculture qui s'appelait à l'époque le CEMAGREF, qui s'appelle aujourd'hui l'IRSTEA, qui a fait un travail exemplaire d'adaptation aux problématiques du monde rural français.
Ouais, alors, une station d'épuration des eaux usées a été, sous cette forme de filtre planté de roseaux, a été installée à Nègrepelisse, dans Tarn-et-Garonne, chez vous. Il y en a environ 3000 en France, et ce processus s'adresse d'abord et quasi exclusivement à des communes de taille moyenne, plutôt communes rurales.
Taille moyenne et petite, puisque les installations commencent à partir de 50 habitants. Et en France, la plus importante, celle de Nègrepelisse d'ailleurs, ou à peu près la plus importante, donc ça tourne autour de 5000 habitants.
Ça marche comment ?
Ah, c'est très simple, je vous explique en deux mots. On fait un trou, on crée un bassin sur un terrain, un bassin pas très profond, de 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur, qu'on remplit de cailloux.
Oui.
Et par un système de tuyauterie, on s'arrange pour répartir l'eau usée, donc l'eau qui sort du réseau d'égout, pour la répartir en surface du filtre. L'épuration de l'eau se produit à la traversée du massif filtrant. Et alors, dans le fond du bassin, il y a un nouveau système de drain qui récupère l'eau. Et bon, comme par miracle, à la traversée de ce mètre d'épaisseur de cailloux, l'eau se purifie et elle peut être renvoyée à la rivière.
Ah oui. Et alors, évidemment, il y a plein d'avantages. D'abord, la création d'une station d'épuration est de moindre coût.
Oui, tout à fait. Alors, au niveau coût, tout dépend un peu de la capacité, mais on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que sur les procédés dits intensifs, qui utilisent beaucoup de machinerie, beaucoup d'électricité aussi. Et donc, au point de vue coût de réalisation, on n'est pas très loin. La différence n'est pas très importante. Mais par contre, au niveau exploitation, là, tout de même, on est deux fois moins cher en général en phytoépuration, en épuration extensive par rapport à l'épuration intensive. Donc là, il y a tout de même une fameuse différence.
Pour une population, une commune comme Nègrepelisse, 5000 habitants, il faut imaginer quelle dimension d'une station d'épuration par roseau.
Ah, c'est un peu le point faible d'ailleurs du procédé. En fait, c'est aussi la raison pour laquelle il s'applique surtout en milieu rural, c'est qu'il faut à peu près entre 1 et 2 mètres carrés par personne, donc ce qu'on appelle des équivalents habitants. Et puis après, il y a autour du filtre, il y a encore des voies d'accès, des talus, etc. Donc il faut compter entre 3 et 4 mètres carrés par habitant. Donc, vous voyez, à Nègrepelisse, pendant le cas de Nègrepelisse, où on a prévu dès le départ une capacité de 6000 équivalents habitants, donc 6000 personnes.
Oui.
Et le terrain qui a été acquis pour desservir cet ensemble, c'est un terrain de l'ordre de 2 hectares. Quoi, voilà.
Évidemment, résultat écologique 100% parfait.
Ah, la perfection n'est pas de ce monde. Je vais vous dire, sur le plan écologique déjà, bon, ben, on remplace des procédés industriels par des fonctionnements qui sont basés sur la nature. Hein. Le traitement, il est fait par les bactéries qui viennent se fixer dans des cailloux et sur des racines d'un roseau qui est le Phragmites communis, le roseau qu'on voit partout là. Et puis il faut dire aussi avantages sociaux parce que au lieu de remplacer une station d'épuration qui demande du personnel extrêmement qualifié qui vient dans sa camionnette depuis une base qui est située je sais pas souvent à 100 ou à 150 km, ici on la remplace par l'ouvrier communal. Ça permet de maintenir l'emploi dans les campagnes. Les tâches qui sont requises dans l'exploitation des stations d'épuration par phytoplanté, bien sûr, ce sont des tâches qui s'apparentent au jardinage, vous voyez. Donc on n'a pas besoin de super qualifications.
Voilà, André, à l'origine de la mise au point de ce filtre planté de roseaux adopté déjà par plus de 3000 communes en France, il y a un lien avec le filtre plante.com. Vous allez avoir l'adresse à nos pages d'émission. Bravo et merci André.
Je vous en prie, Philippe, au plaisir.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Une ville que je n'ai pas mentionnée en ouverture, qui est au nord du département, c'est Caussade. 7000 habitants et un bassin de vie d'environ 20 000 habitants et qui cherche à gagner un nouveau souffle à travers des projets collaboratifs d'un genre presque nouveau. Alors je dis presque parce que nous rencontrons de plus en plus dans les carnets, d'ailleurs le dossier que nous vous soumettons sur le partage et les communs avec la vie en témoigne, des exemples d'espaces collaboratifs partagés. Donc à Caussade se prépare l'ouverture d'un espace multiservice sous le nom de Codoro, avec un K, nom emprunté à une langue centrafricaine qui signifie village. Ce choix va dans le sens d'un lieu partagé qui se réfère lui aussi à l'arbre à palabre, là où la vie en collectivité se discute et se construit. Codoro va se partager entre un bar à palabres, donc au rez-de-chaussée, ainsi désigné, une cour destinée à la vente de produits artisanaux et de paniers fermiers, un espace de travail partagé ou espace de coworking, on peut le dire encore si l'on veut, et à l'étage un espace détente, un repair, comme vous voulez, café, et enfin un pressing et un atelier couture écologique qui existe déjà d'ailleurs dans un autre site, ma boîte à linge. Les soutiens sont toujours les bienvenus selon les concepteurs de l'espace, qui a une super belle allure quand on peut le voir projeté sur le site. Donc je vous conseille de vous diriger vers celui-ci, c'est espace trait d'union Codoro, donc avec un K, Codoro.fr. Laurent Gibowski, bonjour.
Bonjour.
Laurent, nous ouvrons cette semaine par la suite de la série et la révolution du partage avec le magazine La Vie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser en ce lundi au Living Lab. On en a déjà parlé des Living Lab, mais pas de celui-ci, Humanicité, dans le quartier nord de Lille.
Oui, dans un quartier, en fait, à la périphérie de Lille, entre Capinghem et l'Homme. Et ce Living Lab, c'est très intéressant parce qu'il a été bâti sur le même modèle que les Fab Labs. Mais l'idée est de suivre, comment dire, l'évolution de ce quartier qui a été créé de toutes pièces. Un quartier qui est né dans la campagne avec l'idée de travailler sur la mixité sociale et générationnelle, sur la mutualisation des équipements, la convivialité au sein des espaces collectifs, l'harmonie et l'équilibre entre les espaces construits et les espaces naturels. Et l'idée, c'est de mettre dans le coup les habitants. C'est-à-dire que il y a eu un avant, il y a un pendant, la construction qui n'est pas tout à fait terminée, et il y a un après, donc ces fameux Living Labs, qui permettent aux habitants d'être vraiment acteurs du devenir et de la manière dont ce quartier aujourd'hui cherche à respecter les différences et à intégrer notamment les personnes les plus faibles, puisqu'il y a aussi des instituts médico-sociaux, des personnes handicapées, des sourds et malentendants. Et l'idée, c'est de faire ville ensemble.
Et nous appelons tout de suite Stéphane Soyer, directeur des ateliers Living Lab. Merci Laurent. Stéphane, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Donc Stéphane, avec vous, les ateliers Humanicité, l'Université catholique de Lille. Vous avez rejoint l'université en 2013, mais le projet remonte à 2011.
Oui, la première pierre du quartier, c'est même 2009. Et les premiers habitants sont arrivés en 2013, effectivement.
C'est quoi un quartier nouveau et Humanicité, entre autres ?
C'est un quartier qui a été imaginé par les collectivités de l'Université catholique de Lille au début des années 2000 avec quelques principes fondateurs, dont celui de mixité sociale.
Autrement dit, on retrouve à peu près toutes les couches représentatives de la société française dans ce quartier.
C'est ça, on va retrouver 2200 habitants, 2000 salariés à 95% des activités de la santé, oui. Donc le sanitaire, le social, le médico-social. On va trouver des activités de formation, il y a deux campus pour à peu près 1000 étudiants. Et puis on va trouver des habitants on va dire un peu particuliers puisqu'ils vivent en institution médico-sociale. Ils sont à peu près 400 sur le quartier.
Mmh. Autrement dit, il y a des personnes salariées et des personnes sans emploi.
C'est ça. Des personnes qui travaillent sur le quartier, des personnes qui travaillent à l'extérieur, des personnes qui prennent leur voiture pour aller travailler, des personnes qui prennent le métro puisqu'on est au terminus d'une ligne de métro. Donc des formes de vie et des attentes très très différentes, très variées.
Ouais. Et comment on évite les blocages dus à des différences sociales? Parfois on se détourne de l'autre parce qu'il n'est pas de notre même catégorie socio-professionnelle.
Mais en fait, c'est exactement le sujet qui intéresse l'université. C'est justement de s'immerger dans la construction du vivre ensemble, parce qu'on se disait, c'est un sujet très d'actualité, on en parle beaucoup, mais construire le vivre ensemble, c'est pas construire une machine ou un robot. Et donc l'idée, c'est de mobiliser les ressources d'une université pour s'impliquer dans ce quartier, mais les experts, c'est bien les habitants. L'idée, c'est de partir des besoins et des attentes des habitants, des acteurs de ce quartier, et puis de regarder avec eux dans des projets très concrets comment on va pouvoir, nous universitaires, influencer ce vivre ensemble. Et donc d'avoir une posture pédagogique assez différente de ce qu'on fait aujourd'hui. Mmh. C'est d'apprendre de notre expérience. Mmh. Puis après, de pouvoir la partager, puisque la démarche du Living Lab, qui est la méthode que l'on met en place sur le quartier, eh bien aujourd'hui, on a commencé à lancer des parcours de formation continue à ces nouvelles manières de faire de l'innovation sociale.
Mmh. Or, l'innovation sociale peut couvrir quelle finalité précise, quelle concrétisation sur le terrain chez vous dans le quartier?
Ben, on a des projets très très variés, ça peut être des projets de jardin sous des formes différentes, un jardin partagé par exemple, ou un jardin éducatif dans un établissement médico-social par exemple. On peut trouver des projets d'accompagnement de la vie démocratique. On a des habitants qui ont décidé de lancer une assemblée des habitants, qui est ouverte à tous, y compris aux salariés, y compris aux habitants qui vivent en institution médico-sociale. On va trouver des projets plus culturels, des projets d'expérience, exposition par exemple, ou alors créer un salon du livre de poche. Donc des exemples très différents. Puis après, des projets peut-être un peu plus techniques. On a voulu faire l'inventaire de la biodiversité du quartier, on a voulu travailler la circulation ou le stationnement dans le quartier aussi.
Belle expérience. Il y a plusieurs sites. Alors, Humanicité, évidemment, les ateliers Humanicité, et puis le lien que vous allez avoir avec l'Université catholique de Lille, qui est à l'origine, évidemment, de ce Living Lab, un laboratoire de vie, comme son nom l'indique, et de mieux vivre ensemble. Merci Stéphane.
Merci à vous.
Demain, nous allons nous intéresser à une étude lancée par la section départementale de France Nature Environnement dans le Tarn-et-Garonne, sur l'impact des produits phytosanitaires sur la santé des agriculteurs, de leurs familles et de leurs voisins, avec des premiers résultats évidemment accablants. Et puis, je rappelle pour la suite de nos pérégrinations que du 18 au 22 décembre, nous serons à Paris, donc la semaine prochaine, du 25 au 29 dans la Sarthe, et puis début janvier, tout terrain pour une première semaine, avant d'aborder les la Marne, la Seine-et-Marne.